Audible Studio présente Tom Clancy's The Division Broken Down de Alex Irvine, traduit de l'anglais par Jonathan Auriol, lu par Antoine Thomé. Aux Aurelio Diaz de ce monde, en reconnaissance de leur sacrifice visant à en faire un endroit meilleur. Chapitre 1er. Violette. Violette enfonça la pointe de sa botte au bord de la zone inondée. De l'autre côté de l'eau, à environ 500 mètres, se trouvait l'hôtel où elle avait séjourné avec ses amis quelque temps après que la grippe du dollar, le poison vert, avait commencé à décimer la population. Les autorités en avaient fait un camp de réfugiés sous le contrôle de la JTF. Violette ignorait ce que signifiait cet acronyme. Mais c'était eux qui s'occupaient des affaires militaires et qui distribuaient les rations et les médicaments. À l'hôtel, la situation était plutôt stable, du moins depuis que tous les malades étaient décédés, y compris ses propres parents. Ce n'était pas le moment d'y repenser. « Cet endroit me manque, » dit-elle doucement. Ses amis se tenaient autour d'elle. « Ouais, » renchérit Saïd, « à moi aussi. » Les jumeaux Meurtaux, Noah et Wiley, acquiescèrent. Les trois autres gamins du groupe regardaient en silence. Il y avait Shelby, Ivan et sa grande sœur Amelia, sur laquelle ils s'appuyaient. Parfois, Violette était vraiment jalouse des enfants de leur communauté dont les parents et la fratrie étaient encore en vie. Ils étaient censés récolter des plantes, mais ils avaient préféré retourner voir cet hôtel dont ils avaient dû partir. Des agents du gouvernement y avaient emmené les enfants au tout début de l'épidémie. Une fois le pire passé, Violette et les autres avaient aidé à aménager un potager. À présent, leurs graines étaient probablement noyées, comme tout le reste dans les environs. Néanmoins, ils trouvaient manifestement plus plaisant de venir là pour s'apitoyer sur leur sort que de faire ce qu'on leur avait demandé, partir à la recherche de plantes comestibles le long d'un National Mall où la nature avait repris ses droits. Ils devaient compléter les cultures qui poussaient déjà au château. Mais peut-être pouvaient-ils tenter leur chance ailleurs, dans un autre parc, afin de s'éloigner de cette zone. La plupart des vieux musées et des bâtiments du coin abritaient apparemment des gens dangereux à présent. Ils comprendraient au château. Mais Violette était quand même nerveuse. Elle essayait la plupart du temps de suivre les règles à cause des horreurs auxquelles elle avait assisté lorsque le poison vert avait ravagé Washington. Des horreurs que chacun d'entre eux connaissait. Sur les 7 enfants de leur groupe, âgés de 9 à 11 ans, tous avaient perdu au moins un parent, sans parler de leurs frères et sœurs ou de leurs amis. C'était en partie ce qui les avait rassemblés, d'ailleurs. Mais ça leur valait aussi d'être considérés par les membres de la communauté comme la bande des petits dont il faut s'occuper, ce qui était à la fois agaçant et plutôt agréable. La plupart des autres gamins, eux, avaient tendance à les éviter. Comme si être orphelin pouvait s'avérer contagieux. Avant l'inondation, ils avaient vécu avec une centaine de personnes dans les étages inférieurs du mandarin oriental. La façade de l'hôtel était barricadée et fortifiée, et des soldats de la JTF passaient régulièrement s'assurer que tout allait bien. Ils récupéraient l'eau de pluie. L'endroit était plutôt sûr, comparé à d'autres. Ou c'était du moins l'impression qu'ils donnaient. Tout comme la situation à Washington semblait s'améliorer un peu depuis la fin de l'hiver. Mais peut-être était-ce simplement dû au fait qu'il était plus facile d'être optimiste lorsque revenaient la verdure et les fleurs. Puis, au début du mois d'avril, le fleuve était sorti de son lit et ils avaient dû partir. Désormais, ils étaient installés dans la vieille bâtisse de la Smithsonian Institution, surnommée le Château. Ils y étaient un peu à l'étroit, car la plupart des habitants de l'hôtel avaient été relogés là. Les autres devaient se trouver quelque part de l'autre côté du National Mall. Certains groupes avaient pris la direction de l'Est, dans l'espoir de trouver plus de stabilité près de la base militaire. Violette ne parvenait pas à s'en rappeler le nom. « Saïd, » interpella-t-elle, « comment s'appelle la base de l'armée, près du fleuve ? Pas le Potomac, l'autre ?»«
La Joint Base Anacostia Bowling. » répondit Saïd.
Il savait toujours ce genre de choses, tout comme il savait que JTF signifiait Joint Task Force.
il pouvait vous raconter sa création dans les moindres détails. La manière dont les soldats et les secours dépêchés sur place au début de l'épidémie étaient morts en si grand nombre qu'il avait fallu rassembler les survivants au sein d'une nouvelle organisation. Il savait également que la grippe du dollar était en réalité une forme de variole venue de New York. Violette était contente de l'avoir près d'elle. C'était un peu comme pouvoir accéder à Internet quand le vrai avait disparu en même temps que tout le reste. Violette se demanda si les rives de l'Anacostia étaient réellement plus sûres, car elle savait que le chemin pouvait être mal fréquenté. Toute la zone autour du Capitole était interdite aux enfants. La communauté tout entière s'était mise d'accord là-dessus. La règle était entrée en vigueur avant les inondations, et elle leur était rappelée presque tous les matins depuis. Comme si on oubliait qu'ils avaient survécu à une super épidémie et à toutes les atrocités qui avaient suivi. Les adultes ne comprenaient pas que les enfants étaient tout aussi capables de survivre qu'eux. Cela ne les empêchait pas de les laisser se promener librement en groupe dans un périmètre donné. Ce jour-là, ils s'en éloignaient. Au lieu de récolter des plantes au bord du môle, ils étaient partis de l'autre côté, au sud, sur la 7e rue, vers Hancock Park, là où les rails s'élevaient au-dessus du sol à la station de métro. La bande les avait suivis jusqu'à ce qu'ils replongent vers la terre ferme pour finalement disparaître dans la zone inondée. D'immenses buildings de bureaux vides les encerclaient. Au sud, le long de la berge, de grands immeubles d'habitation s'élevaient comme des flèches au milieu de l'eau. Boueux, le fleuve s'agitait en laissant apparaître de petites zones blanches semblables à des blocs de glace. Violette remonta son col et tourna le dos au vent. Il faisait froid en bas, près de la rive.
« Tu crois que l'eau restera combien de temps ?»
demanda Shelby, la plus jeune du groupe.
« Je dirais qu'elle monte encore, » répondit Amelia. « La dernière fois, on pouvait s'approcher plus près de l'hôtel. »
C'était aussi l'impression qu'avait Violette. Jusqu'où le niveau allait-il grimper ? Selon elle, le château se trouvait certes en hauteur, mais pas tant que ça. Leur faudrait-il déménager à nouveau ?
« On ferait mieux de s'en aller !»
lancèrent Wiley et Noah à l'unisson. Pourtant faux jumeaux, ils se ressemblaient énormément. Ils partageaient ainsi avec les vrais certaines manies, comme le don de penser à la même chose en même temps.
« Peut-être, » répondit Amelia, « mais on devrait quand même ramasser quelques plantes avant de rentrer. »
Si les adultes ne les surveillaient pas vraiment, ils attendaient néanmoins de Violette et des autres enfants qu'ils suivent leurs instructions.
« Ouais, »
acquiesça Violette.
« On peut toujours aller voir au Mall, près du Lincoln Memorial. »«
Ça fait une trotte !»
protesta Ivan, soutenu par Shelby. Ils convinrent d'aller à Constitution Gardens, à mi-chemin entre le Washington Monument et le Lincoln Memorial. Mais il leur fallut d'abord contourner la zone inondée en remontant jusqu'à Independence Avenue. Ils traversèrent la rue aussi large que vide qui les séparait du Grand Parc et s'arrêtèrent, en prenant garde à ne pas se faire surprendre par un groupe d'étrangers. Les mois de décembre et janvier avaient été atroces, février et mars plutôt cléments, et pour l'instant, avril se situait dans la moyenne. Il n'y avait pas de morts et de coups de feu à tout bout de champ comme en hiver, mais ce n'était pas non plus aussi calme qu'en mars. À cette période, les adultes en étaient venus à penser que le gouvernement était peut-être toujours opérationnel, que tout allait s'arranger. Violette ne savait même plus qui dirigeait le pays. À en croire les rumeurs, le président Mendez était mort. Mais quelqu'un devait bien l'avoir remplacé, non? Peut-être que personne n'était au courant. Les téléphones et Internet étaient hors service. La seule source d'information des enfants, c'était les conversations qu'ils surprenaient parfois entre les adultes.
« Violette, tu viens ?»
demanda Saïd, qui s'était retourné. Devant lui, le reste du groupe avançait le long de la bordure sud du môle. Elle les rattrapa en courant. Quelque chose la dérangeait dans cet endroit. C'était comme un immense musée à ciel ouvert. Les kiosques d'information pour touristes, les toilettes du National Park Service, tout semblait appartenir à une autre époque. Violette n'avait que 11 ans, mais elle connaissait bien ce sentiment. L'impression d'avoir traversé des événements si importants que le monde ne serait jamais plus comme avant. Le regard d'Ivan balayait le môle de haut en bas. Il avait toujours été leur sentinelle. à essayer de repérer quiconque pourrait constituer une menace. Un psychologue leur avait expliqué que beaucoup d'enfants traumatisés agissaient de la sorte. Le terme technique était « hypervigilance ». Cela rendait parfois Ivan un peu difficile à supporter, mais ce n'était pas sans avantage. Washington était rempli de gens dangereux. Il n'y avait plus de gouvernement, plus d'armée, plus de police. Tout le monde avait souffert des inondations. À peine s'était-il installé et avait-il commencé à s'habituer à la situation, qu'il leur avait soudain fallu déménager une fois encore. Chacun devait s'occuper de soi. Les agents de la division ne pouvaient pas tout faire. Lorsqu'elle rejoignit le groupe, elle remarqua que Saïd fixait du regard un point derrière elle.
« Je sais, » dit Violette alors que les yeux de son camarade glissaient sur elle. « Tu veux aller au musée de l'air et de l'espace ?»«
Ouais, » acquiesça-t-il.
Saïd rêvait de devenir astronaute. Violette se rappelait avoir visité ce musée avec l'école 2 ans auparavant, en CM1, mais pas y avoir vu une fusée. L'espace, ce n'était pas son truc. Elle préférait les SVT. Elle voulait devenir vétérinaire ou poétesse. En revanche, elle se souvenait bien de la capsule d'Apollo 11 qui trônait dans l'immense hall d'entrée, entourée d'avions suspendus au plafond. S'y trouvait-elle toujours? Le musée de l'air et de l'espace faisait partie des endroits interdits. Des bandits s'y étaient soi-disant installés.
« Qu'est-ce qu'il y a, Vi ?» demanda Ivan en lui touchant le bras. « T'as l'air triste ?»
Se remémorer tout cela l'avait amené à penser aux vieilles choses et au fait que les gens les conservaient dans des musées pour ne jamais les oublier. À présent, le monde tel qu'il était avant l'épidémie faisait aussi partie de ses souvenirs. Les voyages scolaires, les sorties du week-end avec les parents, chaque détail d'un quotidien normal. Hors de question de pleurer devant Ivan.
« Viens, » dit-elle, « allons trouver quelques salades. »